Écho d'économie.
Le FMI vient d'approuver le décaissement immédiat de 202 millions de dollars américains en faveur de la RDC. Ce nouveau décaissement porte à environ 1200 millions de dollars américains le total de l'appui du Fonds monétaire international à la RDC dans le cadre du programme triennal de cette institution avec le pays. Comment encourager les transactions financières par de voies digitales pour réduire l'utilisation du cash ainsi que la fraude, mais aussi tracer les flux monétaires et financiers? Nous avons posé cette question à Jean-Claude Tetika, directeur général du FPM Icebel, le Fonds pour l'inclusion financière. Il est l'invité de l'économie. Bienvenue à tous. Le conseil d'administration du FMI, réuni hier jeudi à Washington, a approuvé la cinquième revue du programme triennal avec la RDC, programme soutenu par la facilité de crédit. Ainsi, le conseil approuve le décaissement immédiat de 202,1 millions de dollars américains. Ce nouveau décaissement porte à ce jour à environ 1219,1 millions de dollars américains le total de l'appui du FMI à la RDC dans le cadre de ce programme. Malgré la situation sociopolitique et sécuritaire difficile, dit les communiqués du FMI, les autorités congolaises restent déterminées à préserver les objectifs du programme, notamment en limitant les dérapages macroéconomiques et en poursuivant la mise en œuvre du programme de réformes économiques. Même si la croissance reste résiliente, les pressions budgétaires, dépréciatives et inflationnistes sont fortes. Ce contexte macroéconomique difficile appelle des politiques budgétaires prudentes, notamment en réduisant les dépenses non essentielles et en améliorant l'efficacité des dépenses, la gouvernance et la transparence. Des efforts visant à renforcer la mise en œuvre de la politique monétaire sont également justifiés. Dans une série d'ordonnances lues à la RTNC, le président Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, a promulgué la loi des finances pour l'exercice 2024. Ce texte de loi contient les dispositions relatives aux recettes et aux dépenses du pouvoir central pour l'exercice 2024. Elle fixe globalement la part de recettes à caractère national allouée aux provinces conformément à la Constitution et à la loi relative aux finances publiques. Ce projet de loi des finances pour l'exercice 2024 est équilibré en recettes et en dépenses à hauteur de 40 986 milliards de francs congolais. C'est un taux d'accroissement de 26,3% par rapport au budget de l'exercice 2023, chiffré à hauteur de 32 456,8 milliards de francs congolais. D'après cette ordonnance présidentielle, la loi des finances pour l'exercice 2024 entrera en vigueur à partir du 1er janvier de la même année, c'est-à-dire 2024. La campagne électorale tend tout doucement vers sa fin. Occasion pour Écho d'économie de faire un point sur les sujets à caractère économique qui ont émaillé cette actualité. D'après Israël Moutala, patron de presse et chroniqueur économique, le coût de la vie de plus en plus cher a constitué l'essentiel des discours des campagnes des candidats. Cependant, Israël Moutala regrette l'absence d'un réel débat de fond entre candidats sur le volet économique de leur programme. Il est au micro de Cynthia Bachizi Nabizana.
Je dirais qu'il y a une convergence par rapport à la cherté de la vie, par rapport à l'inflation, par rapport à la protection du pouvoir d'achat. Je pense que c'est la principale préoccupation des Congolais de tous bords qui demandent à ce que le dollar n'augmente pas, que le franc congolais ne perde pas de sa valeur. Donc c'est la principale préoccupation des Congolais. Et dans plusieurs meetings, le président de la République promet justement de s'attaquer à cette question de l'inflation, mais il y a aussi ses adversaires politiques, Katumbi, qui l'accuse justement de ne pas être capable de préserver le pouvoir d'achat des Congolais. Donc il exploite ça dans ses meetings en disant que le dollar ne fait que monter. Mais cette question de l'inflation, c'est une problématique mondiale qui est due à des chocs exogènes en grande partie, ou même dans ce qui concerne la RDC de manière principale. Donc voilà à peu près, mais c'est une question qui s'est vraiment invitée dans le débat. J'aurais voulu qu'il y ait des débats contradictoires, thématiques, par exemple sur le volet économique. confronter les idées du président Tshisekedi, du président sortant Tshisekedi, les confronter aux idées de Mouzito, les confronter aux idées de Martin Fayoulou, les confronter aux idées de Moïse Katumbi, les confronter aux idées de Mukwege. Ça allait beaucoup édifier les Congolais, et donc chacun a avancé des chiffres en termes de dizaines de milliards de dollars à mobiliser. Il fallait vraiment que maintenant qu'il y ait des débats sur quand mobiliser, comment les mobiliser, donc comment financer les budgets que chacun chiffrait en termes de dizaines voire de centaines de milliards de dollars sur un quinquennat ou sur 10 ans. Donc c'est tout ce débat qu'il fallait absolument que projet contre projet.
Écho d'économie.
Digitalisation des services financiers, comment encourager les transactions via des canaux numériques pour réduire l'utilisation du cash? Nous avons posé cette question à Jean-Claude Tetika, directeur général du FPM ASBL, le Fonds pour l'inclusion financière. Suivez ici la deuxième partie de l'interview que nous a accordée M. Tetika.
On sait qu'au lancement du mobile Money en RDC, l'un des avantages présentés, c'était la réduction de la circulation de la monnaie. Mais plus de 10 ans après, le cash a toujours la peau dure, à part le transfert des fonds et peut-être l'achat de crédits d'appel ou des data. Le Congolais n'arrive pas à effectuer d'autres paiements par le mobile money. Pourquoi cette attitude, selon vous?
Alors, madame, vous posez là une des questions, je dirais l'une des plus importante question au niveau du secteur de tout ce qui est mobile money, digitalisation au niveau du pays. En fait, vous parlez de problème des transactions. Éventuellement, j'ai parlé de 11 millions de comptes mobiles qui circulent. J'ai parlé de près de 37 millions de personnes, des comptes qui sont ouverts au niveau du pays, mais malheureusement, les transactions continuent encore de se faire par le... Il y a une préférence encore très très accrue au niveau de tout ce qui est cash. Éventuellement, il y a des problèmes techniques assez importants, des problèmes d'interopérabilité au niveau du secteur. Regardez, si vous avez un M-Pesa aujourd'hui et que vous allez dans un magasin, la personne qui vous vend n'importe qui, n'importe lequel, quelque chose que vous voulez acheter, il a Orange Money. Vous ne pouvez pas payer aujourd'hui. Et si, vice-versa, si vous avez Airtel Money, vous ne pouvez pas payer. Qu'est-ce qui se passe ailleurs, c'est que tous les opérateurs, banques, télécoms, c'est interopère. C'est-à-dire qu'on a créé des conditions pour que, quel que soit ton fournisseur, tu es capable de pouvoir payer. Donc la question d'interopérabilité entre les acteurs, c'est une question assez importante, mais cette question n'est pas encore résolue. Heureusement qu'aujourd'hui, la Banque centrale est en train de travailler pour mettre en place un switch monétique qui va permettre à tous les acteurs de pouvoir interopérer. Mais ce projet est encore en train d'être travaillé, ce n'est pas encore finalisé. Donc je pense que ça, c'est le problème que nous avons, parce qu'aujourd'hui, si vous prenez le pays comme les Kenya et tout ça, aujourd'hui, tout le monde, même la maman qui vend les légumes au coin, vous pouvez payer avec votre téléphone. Tant qu'on ne payera pas, tant qu'on ne pourra pas faire ça, nous risquerons de manquer finalement le virage et le but pour lequel finalement nous sommes engagés dans cette transition digitale.
Mmh. Il se pose aussi un problème de taux, hein, de frais, des taux appliqués sur le frais de transaction.
Mais oui, c'est-à-dire que si aujourd'hui les gens ne sont pas interopérés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun applique son propre taux. Mmh. C'est-à-dire que pour quitter un PSA, pour aller au rangement, pour aller à tel, ainsi de suite, au fait, tu passes par plusieurs opérateurs. En fait, c'est comme si tu passais à plusieurs barrières de contrôle. Et donc, à chacune de ces barrières-là, tu payes des frais. Mmh. Donc, c'est vraiment la conséquence financière du fait que le réseau n'est pas interopéré. Mais quand c'est interopéré, tout le monde va se mettre d'accord sur et tout ça. Et si c'est la Banque centrale, par exemple, qui fait la promotion de ça, ça veut dire qu'il va éliminer énormément beaucoup de coûts et cela aura de bénéfices. Et qu'est-ce qui va arriver par la suite? Ce que nous allons avoir, une multiplication des transactions. Aujourd'hui, on parle de 20 milliards ou quelque chose comme ça, mais ça peut être multiplié par 10, par 15, par 100. Et cela va avoir un impact terrible sur les populations pauvres, parce que c'est les premiers qui utilisent ces canaux, mais aussi un impact extrêmement important au niveau de l'économie. Donc nous parlons d'un enjeu économique majeur.
Mais comment amener la maman qui est au marché, qui vend les beignets, à accepter finalement de faire ces transactions, de recevoir l'argent de ses clients par ces canaux?
Comment le faire? Non, c'est simple. En fait, aujourd'hui, c'est un business des réseaux. Vous savez, vous allez vous inscrivez sur WhatsApp, ou sur Facebook parce que la plupart de vos amis se trouvent dedans. Si on vous présente aujourd'hui un réseau social qui n'a que 100 000 membres au lieu des 2 milliards qu'a Meta par exemple, vous n'allez pas y accéder parce que vous allez vous dire il est possible qu'une bonne partie de mes correspondants ne sont pas dedans. Donc, le plus possible, nous allons démultiplier, connecter les réseaux et ainsi de suite. C'est-à-dire que même la maman au coin pourra se dire, mais pourquoi je vais aller faire le cash-out? C'est beaucoup plus simple. Moi, si mon fils m'envoie de l'argent sur un PSA, c'est très simple. Je vais juste aller acheter chez ma collègue au coin en payant directement par un PSA parce qu'il a aussi un PSA, il a aussi Orange Money. Et en plus, si le fait qu'on ne peut plus regarder le visage des opérateurs, donc on peut payer sans se poser des questions qui est en face, eh bien, tout le monde sera adopteré ces canons. Et qu'est-ce qui va arriver? Nous aurons moins d'argent en circulation, moins de fraude, plus de traçabilité, plus d'efficacité au niveau de l'économie.
Monsieur Jean-Claude Tetika, merci.
Je vous remercie, madame.
Ainsi s'achève Écho d'économie de ce soir, le tout dernier numéro de ce magazine pour l'année 2023. Merci pour votre fidélité à ce programme et à Radio Okapi. Nous nous retrouvons l'année prochaine, en 2024, pour ce programme, bien sûr. Meilleurs vœux et passez de très bonnes fêtes en compagnie de la radio de la paix.